Laudetur Jesus Christus.
À la une de ce journal, l'Iran qui a un nouveau dirigeant à sa tête. Les résultats officiels de l'élection présidentielle ne sont pas encore proclamés, mais il semble que la victoire de l'ultra-conservateur Ebrahim Raisi soit acquise. Qui est-il et quel est son programme? Les détails dans un instant. On vote aussi demain en Arménie, élection législative anticipée, cruciale pour le Premier ministre Nikol Pachinian, rendu responsable de la défaite de son pays face à l'Azerbaïdjan. Il joue là son avenir politique. Dans ce journal également, la Palestine qui refuse les vaccins presque périmés d'Israël. Nous reviendrons aussi sur ce qui a été sans doute l'un des derniers tête-à-tête du couple Macron-Merkel hier soir. La chancelière allemande quittera en effet son poste en automne. Et puis c'est demain la journée mondiale du réfugié. Il y a 4 ans, le pape lançait avec Caritas Internationalis la campagne Partage le chemin. Elle a vu fleurir des initiatives de partage et de dialogue dans le monde entier. Monseigneur Dufay, numéro 2 du Dicaster pour le développement humain intégral, nous en dresse un bilan.
Radio Vatican, le journal, Manuela Affigi.
Bonjour à tous. L'Iran a donc un nouveau président. C'est le sortant Hassan Rouhani qui l'affirme ce matin, avant même l'annonce des résultats officiels. Il ne cite pas le nom du vainqueur, mais tous les regards se tournent vers le chef de file des conservateurs, Ebrahim Raisi, le candidat ultra favori, faute de réelle alternative. Le scrutin s'est d'ailleurs déroulé sans grande conviction et l'on note une forte abstention, Olivier Bonnel.
Oui, Manuela, chef de l'autorité judiciaire du pays, proche du guide suprême, l'ayatollah Khamenei, Ebrahim Raisi, 60 ans, était promis à une victoire sans grand suspense après la disqualification de ses principaux adversaires politiques par le Conseil des gardiens de la Révolution. Lui qui a notamment promis de lutter contre la corruption dans le pays, ses détracteurs lui reprochent une faible expérience à des postes exécutifs. Ce succès devrait renforcer la mainmise des conservateurs en Iran qui contrôlent déjà le Parlement. À Téhéran, de nombreux partisans de Raisi affichaient ces derniers jours une photo de Qassem Soleimani, l'ancien commandant opérationnel des gardiens de la Révolution, assassiné en janvier 2020. Et véritable martyr dans le pays. Une photo, on le voit embrasser le front de Raisi. Autre enseignement, vous l'avez dit, de ces élections, c'est le taux de participation en Berne. Les chiffres ne sont pas encore connus, mais une chose est sûre, les 73% de participation du deuxième tour des élections de 2017 devraient être un lointain souvenir. L'enjeu principal et majeur pour le nouveau président, ce sera bien évidemment de redonner de l'espoir à des millions d'Iraniens étranglés par une grave crise politique, économique et sociale. Les sanctions américaines et la pandémie de Covid qui a aussi gravement affaibli le pays.
Merci beaucoup Olivier. Élection toujours législative cette fois, dimanche, en Arménie où une campagne haute en couleur a pris fin hier. Après la défaite de Yerevan face à l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh en automne dernier, le Premier ministre Nikol Pachinian a été contraint de convoquer un scrutin anticipé. Avec une popularité en berne, l'ancien journaliste met en jeu son avenir politique et il n'hésite pas à brandir le risque d'émeute si ses opposants l'emportent demain soir. La correspondance de Jean-Didier Revoy.
Nikol Pachinian parviendra-t-il à se maintenir au pouvoir? Après avoir récolté 70% des suffrages il y a 3 ans, il espère en recueillir 60 dimanche soir. Mais cela semble difficile. Le seul sondage disponible ne crédite son parti Contrat civil que de 25% des voix, alors que celui de son principal rival, Robert Kocharyan, en obtient 29. Nikol Pachinian paye au prix fort la défaite de l'Arménie face aux forces azerbaïdjanaises pour le contrôle de l'enclave du Haut-Karabakh. Nombre de ses partisans ont rejoint ses rivaux et même si le Premier ministre sortant conserve une certaine popularité, il n'est pas sûr que cet ancien journaliste, arrivé au pouvoir en 2018 avec la promesse de chasser les élites post-soviétiques corrompues, parvienne à rééditer son exploit. Pour galvaniser ses partisans, il les a incités jeudi soir à réaliser une révolution d'acier en votant pour lui, brandissant le risque d'émeute en cas de victoire de ses opposants. Environ 2,6 millions d'électeurs arméniens sont appelés aux urnes pour élire au moins 101 députés pour 5 ans. Mais un sondage plaçant l'abstention à 37% accroît les incertitudes. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
L'actualité, c'est aussi ce verdict historique en Suisse où un tribunal pénal fédéral a condamné un ancien commandant rebelle libérien à 20 ans de prison. Alieu Kosia, c'est son nom, a été reconnu coupable d'atrocités, de meurtres, de viols et d'utilisation d'enfants soldats durant les 2 guerres civiles qui ont ravagé le Libéria entre 1989 et 2003. C'est la première fois qu'un Libérien se voit condamné pour des des crimes de guerre commis pendant ce conflit dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. L'Afrique où la trajectoire du Covid est jugée très inquiétante selon l'OMS. Alors certes, la situation globale du continent reste gérable, mais les cas d'infection augmentent dans certains pays. En cause, la diffusion des variants et une distribution inique des vaccins, estime un cadre de l'Organisation mondiale de la santé. Seul 1% de la population du continent est pleinement vaccinée aujourd'hui. Vaccin toujours, avec cet accord annulé entre Israël et Palestine, il était prévu que l'État hébreu transfère 1 million de doses aux Palestiniens. Le problème, c'est qu'elles sont en passe d'être périmées. Alors les autorités de Ramallah attendent désormais la livraison des vaccins commandés directement auprès du laboratoire Pfizer. À Jérusalem, on retrouve Valérie Ferrand.
L'accord portait sur la livraison immédiate par Israël d'1 400 000 doses non utilisées en échange d'un nombre équivalent de vaccins commandés et payés par l'autorité nationale via l'Organisation mondiale de la santé, censé arriver d'ici 3 à 4 mois. Divers problèmes ont forcé le gouvernement de Mohamed Ejtaye à annuler l'accord et à rendre les quelques 100 000 doses livrées hier. La ministre de la Santé, Michaela, a expliqué que celles-ci ne respectent pas les normes requises et ne sont pas conformes aux termes de l'accord conclu avec Israël. Mise en cause en particulier, la date de péremption très proche, rendant impossible l'administration d'une telle quantité de vaccins en une dizaine de jours et faisant surtout douter de l'efficacité du produit. L'accord avait par ailleurs soulevé des tensions politiques, le gouvernement israélien ayant demandé à ce que les vaccins ne soient utilisés que pour les populations palestiniennes de la Cisjordanie occupée, excluant donc celle de la bande de Gaza. Une demande que l'autorité nationale palestinienne avait catégoriquement rejetée. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
Un mot sur la visite du patriarche latin de Jérusalem à Gaza. Justement, durant 4 jours, Mgr Pizzaballa a arpenté l'enclave palestinienne, rencontrant de nombreuses familles chrétiennes, visitant les écoles et les institutions de l'Église sur place. Il dit avoir constaté l'épuisement des Gazaouis encore traumatisés par la récente guerre entre le Hamas et Israël. Il les a appelés à ne pas perdre l'espérance. C'est une décision rare qui a été prise par l'Assemblée générale des Nations unies. Dans une résolution adoptée hier, elle condamne le coup d'État en Birmanie et appelle tous les États membres à empêcher l'afflux d'armes vers ce pays. Le texte réclame également le retour de la démocratie. Il est le premier dirigeant étranger depuis le début de la crise sanitaire à avoir été invité à Berlin. Emmanuel Macron était reçu par Angela Merkel hier soir. Le président français et la chancelière allemande ont affiché une proximité visible, d'autant que c'est certainement leur dernier tête-à-tête avant le départ d'Angela Merkel de la chancellerie cet automne. Delphine Herbollier.
Ce n'était pas une visite d'adieu hier soir pour Emmanuel Macron. Il reste encore quelques mois avant le départ annoncé d'Angela Merkel de la chancellerie allemande. Toutefois, cette visite hier pourrait bien être la dernière en tête-à-tête à Berlin pour les deux dirigeants, avant qu'une page ne se tourne et qu'un nouveau chancelier ou une nouvelle chancelière ne soit élu en septembre. Pas de pathos toutefois hier soir pour cette visite de travail destinée à préparer le Conseil européen de la semaine prochaine. Russie, Turquie, pacte de stabilité mais aussi pandémie de coronavirus, sur tous ces sujets-là, la France et l'Allemagne souhaitent travailler de concert. Sur la Russie, Paris et Berlin disent suivre la même ligne, vigilance et réaction face aux provocations russes, mais nécessité aussi de rester en dialogue avec Moscou. Quant à la Turquie, Angela Merkel le concède, les différences d'opinion sont grandes avec Ankara, mais l'UE et la Turquie sont dépendantes les unes des autres, notamment sur la question migratoire. Le dialogue reste donc nécessaire. Berlin, Delphine Herbollier pour Radio Vatican.
80 migrants secourus dans la Manche hier alors qu'ils tentaient de gagner l'Angleterre sur de frêles embarcations. Ces traversées illégales tendent à augmenter depuis 2018 malgré les mises en garde des autorités. La Manche est en effet une mer froide, dangereuse et sujette à un trafic très dense. À une large majorité, les évêques américains réunis en assemblée plénière ont voté pour l'élaboration d'un document sur la signification de l'Eucharistie dans la vie de l'Église et sur l'importance notamment de la communion. Plusieurs voix se sont élevées récemment pour demander que celle-ci soit refusée aux élus et politiques favorables publiquement à l'avortement. La question suscite de très vifs débats au sein de l'épiscopat. Le Saint-Siège a exhorté à la prudence. Le texte sera débattu en novembre prochain. L'actualité de ce samedi matin au Vatican, c'est cette messe à 10h en la basilique Saint-Pierre, célébrée par le cardinal nigérian Francis Arinze. Elle sera dite à l'intention de toutes les victimes du terrorisme au Burkina Faso et en Afrique subsaharienne. C'est une initiative de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements à la suite des récentes attaques survenues notamment à Solane au Burkina Faso il y a 10 jours. Cette messe, vous pourrez la suivre avec commentaires en français sur la page de Facebook Vatican News. C'est donc demain dimanche que s'achèvera la campagne « Partage le chemin » de Caritas Internationalis en la journée mondiale des réfugiés. Cette initiative, consacrée donc aux migrants, avait été lancée le 27 septembre 2017 par le pape François. Durant 4 années, les Caritas locales du monde entier ont renforcé la culture de la rencontre à travers une multitude d'actions favorisant le dialogue, l'écoute et la fraternité, comme le partage d'un repas ou la marche mondiale de la solidarité. Un premier bilan de cette campagne a été dressé mardi dernier en salle de presse du Saint-Siège. Parmi les intervenants, Mgr Bruno-Marie Dufay, secrétaire du dicastère pour le service du développement humain intégral. Il revient tout d'abord avec nous sur le sens et l'originalité de ce projet.
Share the journey, partager le chemin, c'était et c'est vraiment partager nos expériences humaines et ne jamais réduire les migrants à être des migrants, mais à être des hommes, des femmes, des enfants, des anciens, qui ont la soif, le désir d'avoir des amis, de pouvoir échanger, de parler de musique, de parler de culture, mais aussi de parler de travail, de parler de l'avenir. Donc, c'est partager tout ce qui nous constitue dans notre humanité. Et donc, nous avons là, vraiment, avec cette expérience, cette originalité d'expérience, pas simplement faire la charité ou vivre la charité, pas simplement aider, mais construire ensemble. On pourrait dire dans notre langage de l'Église, c'est faire une synodalité sociale, faire le chemin ensemble.
Il était important d'agir à la fois au niveau spirituel, politique, social ou encore moral.
Oui, toutes ces dimensions se confortent l'une l'autre. C'est-à-dire quand vous oubliez une dimension, vous êtes plus faible dans l'expérience de la solidarité. C'était une grande intuition du christianisme social des années 50, déjà. À partir du moment où vous considérez les personnes avec toutes les dimensions, c'est la définition du développement humain intégral, eh bien, vous trouvez, vous découvrez, en tout cas, c'est l'expérience personnelle que j'ai avec les migrants en France, vous découvrez des talents, des capacités. Et à l'intérieur même des communautés religieuses, des églises, si nous faisons attention à la présence des migrants, si nous ouvrons l'espace de nos liturgies, de nos prières, de nos rencontres, nous découvrons aussi une sensibilité religieuse qui leur est propre. Je pense aux réfugiés syriens, je pense aux réfugiés irakiens, je pense aux réfugiés des Balkans. Il y a comme une sorte de trésor de la foi ou de trésor de l'espérance contenu dans chacune des personnes, alors même qu'elles ont vécu la souffrance de l'exil, de la solitude et parfois de la maltraitance.
C'est le pape François qui avait inauguré en 2017 cet événement. Comment sa proximité s'est-elle illustrée durant ces 4 années ?
Le Saint-Père a plus d'une fois exprimé son émotion par rapport à ce qu'ont pu vivre des migrants. À propos du bon samaritain, il dit, dans Fratelli Tutti, sa dernière encyclique, il dit « À qui t'identifies-tu ? À qui t'es-tu identifié ? Est-ce que tu t'identifies plutôt à celui qui passe son chemin et qui ne regarde pas l'homme blessé ? Ou bien est-ce que tu t'identifies au samaritain qui détourne son chemin, qui change ses plans, dit le texte, pour pouvoir prendre dans ses bras celui qui a été blessé ?» Donc la question pour nous, fondamentalement, c'est à qui nous identifions-nous ?
Cette campagne de Caritas s'achève ce 20 juin, la journée mondiale des réfugiés. Avez-vous un message à transmettre à cette occasion ?
Le pape François dit dans Fratelli Tutti, nous avons besoin d'une architecture de la paix et nous avons besoin de l'artisanat de la paix. L'architecture de la paix, c'est apprendre à construire une maison commune. Nous pouvons construire une maison commune. Il y a du travail pour tous, il y a des activités pour tous. Et puis nous avons besoin de l'artisanat. Alors l'artisanat, vous savez, ça me fait penser à ces gens qui vous disent « moi je ne sais pas bien ce que je peux faire pour changer la situation, mais j'ai vu des migrants qui dormaient dans la rue et je suis allé leur porter un café un matin parce que je me disais que finalement c'est pas mal d'avoir un café chaud quand on a dormi dehors. » Eh bien ça c'est l'artisanat de la paix et je pense que nous avons besoin d'une architecture de la solidarité, construire une maison solidaire. Et nous avons besoin du petit café qu'on va offrir simplement parce que notre humanité s'exprime par ces gestes simples. On se grandit, on grandit ensemble et on trouve aussi une certaine joie. Vraiment, bon, c'est pas une joie qui exulte parce qu'il y a tellement de défis, mais il y a une certaine joie profonde à être plus humain et à devenir amis les uns des autres. Amis les uns des autres et non pas ennemis les uns des autres. Voilà mon message.
Voilà, interrogé par Hélène Détombe, Mgr Bruno-Marie Dufay, secrétaire du Dicaster pour le service du développement humain intégral. Il était ce matin l'invité du dossier de Radio Vatican. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h pour un nouveau journal d'information vaticane et internationale. D'ici là, très belle matinée à toutes et à tous.